Il y a plus de 20 ans, Pika Éditions publiait ses premiers volumes de manga en France. Aujourd'hui, cette maison d'édition compte plus de 1800 titres à son catalogue et continue de nous faire connaître des œuvres rassemblées autour d'une idée, la création et l'inspiration japonaise. Un manga, c'est environ 350 grammes de papier, de dessins, de dialogues, mais c'est surtout un long voyage autour du monde, des auteurs japonais jusqu'à nos mains de passionnés en France. Et pendant ce voyage, des tas de petites mains se relaient pour réussir l'exploit de nous faire découvrir tous ces personnages qu'on va adorer ou adorer détester. Bienvenue dans le Pika Podcast, un nouveau format que la maison d'édition Pika, spécialisée en manga, a choisi pour vous faire vous aussi voyager et retracer le trajet de vos mangas préférés. Je suis Amandine, et je serai votre hôte durant toute cette saison pour lever le voile sur le mystère de l'adaptation ou de la création d'un manga. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Paciani, directeur artistique chez Pika Éditions. Lecteur et fan de manga depuis 1996, Olivier officie dans le monde du manga depuis 2004. Bonjour Olivier et bienvenue.
Bonjour Amandine.
Bienvenue dans le Pika Podcast. Tu suis de très près Mehdi dans cette expérience un petit peu nouvelle pour la maison d'édition. Comment ça va aujourd'hui ?
Eh ben ça va super bien. Je suis ravi d'être là en ta compagnie, en votre compagnie.
Et petite question un petit peu bonus entre guillemets, mais est-ce que tu es prêt à nous livrer toutes les anecdotes croustillantes de ton métier directeur artistique ?
Oula, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux, mais il y en a pas mal.
Alors on va y aller. Le Pika Podcast, c'est votre petite fenêtre sur les métiers du manga, des choses que vous connaissez sûrement, mais d'autres que vous ne soupçonnez même pas. Après avoir exploré le métier secret passionnant de directeur éditorial avec Mehdi, on va explorer un autre métier tout aussi secret et tout aussi passionnant et essentiel qu'est celui de directeur artistique avec Olivier aujourd'hui. C'est la seconde étape que franchiront les mangas en provenant des auteurs japonais pour arriver entre nos mains. La direction artistique, elle est un petit peu méconnue, je pense, malgré sa très grande responsabilité, rendre nos mangas beaux.
Exactement.
À nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux de Pika, bien sûr, mais aussi en commentaire de podcast si jamais vous avez des petites interrogations auxquelles nous n'avons pas répondu aujourd'hui. On va pouvoir se lancer dans les questions. Olivier, t'es prêt ?
Je suis ready.
Pour commencer, on va éclairer nos lanternes d'une façon un petit peu plus large. Quelle est, en quelques mots selon toi, la responsabilité de directeur artistique ?
Alors, ma responsabilité en tant que directeur artistique, c'est surtout de veiller à... est-ce que les mangas que Pika Éditions et Nobinobi sortent en français soient visuellement des bonnes adaptations des versions japonaises. Parce que c'est vrai que tu l'as dit en intro, je rebondis directement sur ce que tu as dit, c'est que effectivement c'est peut-être un petit peu une partie un peu méconnue. Les mangas tout de suite on pense essentiellement traduction, il suffit entre guillemets il suffit de les traduire et voilà, on peut les lire en français. Mais c'est vrai qu'il y a tout cet aspect un petit peu complètement graphique, qui est aussi qui fait partie du process et qui est un gros morceau aussi de l'adaptation
des mangas
du japonais au français.
Parce que c'est vrai qu'on se le figure peut-être pas, mais c'est pas un copier-coller, quoi. On prend pas le manga japonais, on change l'écriture et hop, c'est réglé.
Non, c'est pas que ça. Bah, si c'était que ça, j'aurais pas grand chose à faire, en fait. Donc,
Je
ne serais pas là aujourd'hui. Donc effectivement, toute la subtilité, j'ai envie de dire, c'est de veiller à l'équilibre entre la fidélité à l'œuvre d'origine et son adaptation au marché français, qui n'a pas forcément les mêmes goûts que le public japonais. Donc du coup, faut trouver, c'est cette balance entre les deux que moi je m'applique à conserver. C'est un peu ce que je trouve passionnant dans mon boulot, c'est justement, c'est garder ce qui fait l'originalité,
la pâte
originale, parce que voilà, c'est ce qu'a voulu l'auteur. Le but, c'est surtout pas de trahir ce qu'a voulu exprimer l'auteur. Mais l'auteur quand il a fait ça, il s'est adressé à un public en particulier, le public japonais en l'occurrence, même si maintenant c'est de moins en moins vrai, parce que c'est vrai que comme ça, les mangas s'internationalisent de plus en plus, je pense que les auteurs aussi maintenant une vision plus large échelle, plus globale. Mais c'est vrai que du coup, à la base, c'est quand même fait pour les lecteurs japonais. Du coup, voilà, le but, c'est aussi de trouver l'équilibre pour que ça plaise aussi au public français.
Dans la confection d'un manga, en termes de timing, quand est-ce que tu rentres en jeu et quand est-ce que tu arrêtes, entre guillemets, de travailler sur cette confection ?
Moi, j'arrive assez tôt, au final. Donc, une fois que l'acquisition... donc, ça, vous en avez parlé déjà avec Mehdi. Mm-hmm. Une fois que l'acquisition, c'est-à-dire l'achat des droits du manga est fait... est faite. Dès qu'il est mis au planning, on se met à réfléchir dessus pour sa version française et donc toute la partie graphique pour laquelle j'interviens. La direction artistique, ça va au-delà des livres. Mm-hmm. C'est vrai qu'on pense pas non plus à tout le reste, mais c'est vrai que mon rôle aussi, c'est de veiller à ce que tout graphiquement soit cohérent entre tous les différents supports. Donc le livre, c'est de là que tout part. Toute la partie graphique part du livre, mais après tous les éléments de communication, les bannières, les goodies, les présentoirs en librairie, etc. Moi, je suis aussi le garant de la cohérence graphique entre tous ces médias. Faut que tout soit harmonieux, en fait.
Tu travailles aussi avec l'équipe commerciale, en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Si la couleur principale de telle série, c'est le rouge, et avec telle police, par exemple, et que c'est ça qui est utilisé sur le livre, on va pas utiliser une couleur différente et une police différente pour les petits goodies, pour les marque-pages, pour etc etc quoi. Donc du coup, je suis aussi garant de, ça fait aussi partie de mon boulot de faire en sorte que tout soit cohérent du début à la fin concernant une même série quoi.
Donc finalement, voilà. C'est un peu tes bébés aussi, comme Mehdi, donc vous êtes les heureux papas de...
Complètement, complètement. C'est exactement le terme. Pour revenir à ta question, mon travail graphique, il commence dès le début, effectivement, dès qu'il est mis au planning, en fait. Et il se divise un peu en deux choses essentiellement, c'est la charte graphique de la série et le logo de la série, qui sont travaillés en même temps, mais on va dire c'est un peu les deux éléments principaux d'une nouvelle série. Et donc pour travailler sur ça, je commence par étudier les couvertures japonaises, comment elles sont faites. En fait, on regarde tout le matériel qui est à disposition, parce que donc il faut savoir que quand on achète les droits d'un titre, d'une série, on achète aussi les droits des fichiers, en fait, c'est-à-dire toutes les pages intérieures, tous les fichiers des pages, mais également tous les fichiers couleurs et des pages couleurs et des couvertures. Donc du coup,
ça vous permet de jouer avec tout, en fait.
Exactement.
Vous servir de tout pour exploiter entre guillemets et rendre justice à l'œuvre en France.
Tout à fait. Donc on a accès quasiment à l'intégralité du matériel japonais qui est utilisé pour un volume. Donc du coup, nous, parce que le but, c'est de le reproduire le plus fidèlement possible. Ouais. Donc du coup, mais moi j'aime bien. Donc du coup, dès le départ, dès la première réunion qu'on fait quand on se lance sur une nouvelle série pour les couvertures. Donc moi, je veux avoir toutes les couvertures disponibles à date sous les yeux pour savoir où on va, pour savoir à quoi ressemble la ligne directrice artistique du manga au Japon, c'est-à-dire voir si tel élément change d'un volume à l'autre, si la couleur change à tous les volumes ou s'il y a une couleur prédominante pour toute la série, si l'image en C4 elle est placée de telle façon tout le temps au même endroit ou si ça change selon les volumes. Voilà. Le but, c'est d'avoir la vue la plus précise possible de toute la série. Alors ça, c'est un luxe quand on peut le faire, parce que quand on fait ça et qu'on achète les droits sur un volume qui vient de sortir,
c'est raté.
Là c'est un peu raté, parce que là on a aucune visibilité sur comment on va être développée la partie graphique au Japon. Donc là, du coup, faut un peu se projeter, c'est pas toujours évident. Donc c'est un peu plus le luxe quand nous on sort en France une série qui a déjà plusieurs volumes au Japon. Là, c'est quand même plus simple pour nous de se projeter, de savoir vers où on va.
Et c'est le genre de réunion, je suppose, où il y en a plein à la table.
Exactement. T'as tout compris. T'as tout compris. Et donc ça va au-delà de. Donc du coup, comme je disais, on étudie tout le matériel qui est à disposition que les Japonais nous ont envoyé. Mais moi, je veux étudier aussi tout le matériel qui existe au Japon, c'est-à-dire tout ce qui est matériel promo, voir ce qui a été fait en promo, ce qui a été pré-publié dans les magazines, mais qui n'est pas forcément repris après dans les volumes reliés. Mm-hmm. Parfois, il y a des dessins exclusifs des auteurs qui sont faits pour des shikishi, pour des opérations promo diverses. Donc du coup, j'essaye vraiment de voir tout ce qui existe sur une série, même les fichiers dont les ayants droit ne nous ont pas envoyé les sources, pour potentiellement, si jamais il y a des choses qu'on trouve intéressantes, on puisse les demander en plus et les exploiter aussi nous. Quoi. Moi, plus j'en sais sur une série et plus j'ai une vue globale et mieux c'est quoi. Et plus je pourrais mieux aborder la série et mieux l'appréhender et mieux savoir de quoi ça parle et vers où ça va.
Donc il y a vraiment dans ton métier, j'ai l'impression, une volonté quand même de presque lire l'esprit de l'auteur ou de l'autrice du manga de base pour essayer de comprendre vraiment quelle identité il a voulu donner à son titre et la retranscrire vraiment le plus fidèlement possible en France avec vos outils à vous.
Ouais, c'est ça. En fait, limite, moi j'essaye de, parce que moi je lis pas le japonais et quand on commence une nouvelle série, j'ai juste un pitch en fait qui me donne l'idée globale de la série et l'histoire, mais en fait j'essaye moi de au-delà de ça, sans avoir lu le livre, du coup, j'essaye de me projeter sur ce qu'est l'histoire à travers ces visuels, justement. C'est pas que j'ai envie de dire que les graphismes se suffisent à eux-mêmes, mais c'est vrai que dans les mangas, c'est quand même une grosse part importante. Et donc, on peut quand même se figurer plus ou moins de quoi ça parle. Beaucoup, beaucoup avec les images, il faut dire ce qui est. Mais après, voilà, les pitchs aident beaucoup aussi. Mais c'est vrai que, moi, j'étudie beaucoup toute la partie graphique pour comprendre la série, tout simplement, et voir ce que nous, on peut en faire dans sa version française. Et du coup, ma tâche s'arrête quand on est tous satisfaits de ce qu'on a envie de proposer et que surtout, c'est validé par le Japon.
Donc, j'ai envie de dire un peu jamais, puisque tu dois quand même suivre une fois que le manga est encore en train de sortir pour les campagnes de promotion, pour les nouveaux volumes, etc. Donc, tu suis vraiment le manga tout au long de sa vie, finalement.
Oui, c'est sûr. Après, il est vrai que le plus gros du travail, c'est les tomes 1. C'est les tomes 1, parce que là, faut tout définir. Faut définir la charte graphique, faut définir l'ambiance de la série, faut définir le logo, faut définir tout un tas de choses. Faut définir les polices qui seront utilisées. Parce qu'on parle beaucoup de la couverture, mais j'interviens aussi sur l'intérieur, le choix des polices, ce genre de choses. Ça fait partie des choses graphiques. Même si le plus important reste la couverture. Donc, du coup, le plus gros de mon travail, ça reste quand même le volume 1. Mais après, je fais en sorte de travailler des volumes 1. Je réfléchis les volumes 1 pour je les travaille pour qu'ils soient déclinables, en fait, pour faire les volumes suivants, en fait. Donc, du coup, quelque part, en travaillant le volume 1, indirectement, je me projette pour que les volumes futurs puissent être travaillés aussi dans les lignées du tome 1, quoi.
Du coup, tu es un peu sur le même timing que Mehdi, finalement. Donc, tu peux rentrer en jeu un an et demi avant une sortie, voire encore plus si c'est des titres qui seront publiés bien plus tard.
Bah, complètement, ouais. Complètement. Alors, j'interviens très en amont, mais c'est vrai que si c'est une série qui sera publiée dans 3 ans, bon, là on me fait pas appel à moi tout de suite, en fait. pas à ce point-là, mais c'est vrai que c'est peut-être un an à l'avance si c'est un gros enjeu. Une série qui va sortir en septembre et peut-être qu'on la travaille un an avant. Bon, là, j'interviens déjà.
On parle beaucoup de Pika et on a beaucoup parlé de Pika, mais Pika Édition, ce n'est pas que Pika Édition, c'est aussi Nobi Nobi et d'autres collections dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais il y a un ADN graphique qui est légèrement différent quand même, mais ça reste la même maison d'édition. Comment on fait pour différencier deux ADN aussi proches et pourtant les garder sous la même maison d'édition?
Mais il y a des chartes graphiques qui sont propres à chaque maison d'édition. C'est ça qui va marquer la différence. Pika Édition, donc, c'est plutôt un logo historique en noir et blanc, rectangulaire, qui traverse les décennies sans vieillir, je trouve. Il est toujours aussi efficace. Donc, c'est assez simple de jouer avec. C'est une image de maison qui est un petit peu plus institutionnelle. Du coup, on oriente un peu les choix graphiques en ce sens. Pour Nobi Nobi, effectivement, c'est un peu différent. C'est un label qui est plus récent. Et qui s'adresse globalement plutôt à un public plus jeune. D'ailleurs, on a changé récemment complètement le logo de Nobi Nobi et la charte graphique, pour les mettre plus en phase avec ce que Nobi Nobi est devenu, parce que c'est toujours orienté jeunesse, mais c'est un peu moins pour les tout petits, comme ça avait pu être le cas au tout début, et un peu plus pour un public plus large. Donc là, on est plutôt dans des couleurs pop, des formes rondes, des dynamiques. Donc c'est un peu ça la différence entre Pika Édition et
J'ai envie de dire, si les gens sont en train de nous écouter, ils peuvent aller ouvrir le site internet officiel de Pika Édition et le site officiel de Nobi Nobi, voilà. Et je pense qu'ils auront une idée de ce qu'on est en train de dire, en fait.
Exactement,
Ça se voit tout de suite.
Exactement. Donc c'est et on a un univers plus institutionnel, plus ancestral. C'est pas dans le sens, c'est très très vieux, mais tu vois, c'est vraiment Pika, ça a 20 ans, quoi. C'est posé, ça a quand même une image de marque, voilà. Et Nobi Nobi, c'est plutôt un petit peu l'adolescent un petit peu foufou à côté, quoi. Du coup, avec ses couleurs rondes c'est les formes rondes et les couleurs un petit peu plus.
Une ligne édito qui est un petit peu plus différente quand même. On en a pas parlé, je crois, avec Mehdi, on s'est pas étalé dessus, mais ouais. Il me semble de mémoire que Nobi Nobi, c'est un petit peu plus généraliste dans le sens où on n'aime pas trop coller des labels shonen, shoujo, etc. On essaye plutôt de faire découvrir à tout le monde des titres qui devraient plaire à tout le monde.
Ouais, c'est ça. Il y a quand même les fameuses shoujo shonen, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Comme tu disais, il y a la collection Kawaii et la collection Genki qui sont, pour le coup, pas du tout genrés, mais qui sont plus pour des âges différents. Kawaii pour plus petit, Genki pour plus grand. Mais les deux sont pour un public plus large et totalement mixte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait envie de développer pour le côté nobi-nobi.
On en avait parlé avec Mehdi des étiquettes shoujo, shonen. Ouais. C'était plus son domaine, lui, pour le coup.
Oui,
mais c'est vrai que ça doit se retrouver aussi dans la charte graphique. Finalement, on n'y pense pas souvent, mais ça doit se retrouver un petit peu quand même dedans. Et du coup, tu en as parlé un petit peu en filigrane avant, mais finalement, quand on change de langue, donc quand on transmet un manga du japonais vers le français, tu as forcément un changement d'alphabet, évidemment, mais aussi un changement de police, puisque les polices japonaises ne se retranscrivent pas directement dans les polices de langue européenne ou indo-européenne. Du coup, est-ce que ce changement va également influencer les choix artistiques et surtout, est-ce que tu parlais, je ne savais pas, tu vois, c'est quelque chose que je m'étais jamais dit, mais effectivement, plusieurs polices dans des mangas, je ne savais même pas, j'avais jamais remarqué. Donc ça peut être intéressant d'en parler, je pense.
Mais en fait, c'est marrant comme question parce que c'est pas une question que je me pose en tant que telle, en fait. Enfin, le fait que le japonais soit un problème ou soit trop différent ou quoi. Mais le fait que tu me poses la question, en fait, ça me fait me rendre compte que oui, en fait, ça joue. Alors, je dirais, c'est pas ça qui joue le plus dans les choix graphiques. Mais ponctuellement, effectivement, ça peut arriver qu'à l'inverse, ce soit une contrainte, en fait. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, et surtout, j'ai envie de dire, au niveau des logos, c'est quand les couvertures japonaises présentent un logo qui est écrit à la verticale. Alors là, tout de suite, c'est un gros problème pour nous. Imagine le titre de la série qui est écrit à l'horizontale sur une couverture.
Un peu en traditionnel japonais, en fait.
En traditionnel japonais, exactement. Et que, du coup, toute la composition des personnages, les images, etc. sont faites autour de ça. Là, ça devient, c'est un peu un problème.
En sport.
C'est un peu, exactement. Et ça, ou le fait que quand les kanji, donc les caractères japonais, sont aussi utilisés graphiquement et font partie du graphisme de la couverture japonaise. Mmh. Donc là, ça devient effectivement un peu compliqué. On a eu le cas, par exemple, sur la série Witch's War, chez Pika. Qui présente en fait c'est des battles entre deux personnages, donc la couverture ça présente deux personnages qui sont face à face de profil, et entre deux il y a un vide, et le vide ce vide est comblé en japonais par un beau titre de série à la verticale.
D'accord.
Donc comment gérer ça? On a eu le cas aussi sur Nekogara où le logo était écrit en japonais, de mémoire il était écrit à la verticale sur la gauche de la couverture. Donc là, pareil. Alors, dans les deux cas, on a essayé quand même. De base, moi, c'est toujours quand même, on essaye. Premier réflexe, c'est on change pas le japonais. Si c'est à la verticale, on essaye à la verticale. Bien souvent, ça ne marche pas. Donc, du coup, dans les deux cas, on est parti sur des logos horizontaux. Donc, des logos titres horizontaux. Donc, Witch's War, qu'on a écrit en deux lignes. Witch's et War en dessous. Et Nekogara, qu'on a écrit en une seule ligne. Voilà. Après, dans les deux cas, on reste toujours dans des... le traitement des mots, des lettres, et on reste dans la lignée de ce qui a été fait en japonais. Donc, c'est-à-dire que l'emplacement est différent du coup, la position des lettres est différente. Mais si c'est des lettres craquelées ou si c'est des lettres en rouge, si c'est des lettres avec un dégradé, etc., on essaye de le garder quand même.
La patte que l'auteur ou l'autrice a voulu mettre.
Exactement. Même si notre logo n'est plus dans le même sens, mais on essaie quand même d'avoir un traitement un peu pareil. Pareil, j'ai en mémoire un exemple sur Desert Nine, un shonen qui est sorti chez Nobinobi, où là carrément, donc Desert Nine, c'est écrit en quatre kanji en japonais, et le titre est réparti aux quatre coins de la couverture, dans les quatre angles. Donc c'est Dai Kyusabaku, donc voilà. Donc on pouvait pas nous mettre Desert Nine, enfin voilà, on pouvait pas hacher le mot comme c'était fait sur la couverture japonaise. Donc là, voilà, bon, pareil, on a refait un logo un peu compact vers le bas de la couverture, mais qui reprend aussi les codes des kanji tels qu'ils étaient en japonais. Mais donc effectivement, c'est plutôt des petites embûches à relever, tout à fait à passer, mais on y arrive toujours.
On mettra tous les titres d'ailleurs dans la description si jamais les gens veulent aller comparer justement la couverture française et la couverture japonaise pour voir à quel point c'est un challenge.
C'est ça, exactement. Mais très honnêtement, limite, j'aime bien quand il y a ce genre de problématique.
Ça donne du petit piment dans
exactement,
la carrière.
Ouais. Exactement, parce que limite, quand la couverture est déjà hyper belle et hyper facile et qu'il y a juste qu'à changer le logo, et encore même pas, des fois il y a aussi des logos internationaux qui sont utilisés tels quels du japonais au français. Limite, quand c'est comme ça, c'est pas que j'ai rien à faire, mais j'interviens beaucoup moins du coup. J'ai pas grand chose à créer moi, donc du coup quelque part moi ça m'intéresse un petit peu moins en fait. C'est vrai que quand il y a des petits challenges comme ça, comme on vient d'en parler, j'aime bien essayer de trouver des solutions pour que ça fonctionne aussi après en français, quoi.
Et donc les polices d'écriture choisies pour les dialogues et pour l'intérieur du manga sont aussi liées, entre guillemets, au thème, à l'écriture de base. Comment ça se passe?
Alors non, autant pour, enfin il y a deux sortes de, il y a deux sortes de polices dans l'intérieur. Il y a des polices, on va dire génériques, donc les polices qui sont dans les bulles. Mm-hmm. Ce sont à peu près toutes les mêmes pour tous les mangas Pika et toutes les mêmes pour les mangas Nobinobi. Chacun a sa charte graphique de police fixe, on va dire, qui sont les mêmes d'un volume à l'autre. Ce qui change, c'est un peu les polices d'habillage, c'est-à-dire les polices de titre de chapitre, les polices mm-hmm. de sommaire, de page titre, etc. Ça c'est personnalisé en fonction des séries.
D'accord.
Et du coup, bien souvent, ça reste des dérivés de ce qu'il y a sur la couverture, en fait. Souvent.
Des familles de police qui finalement vont bien ensemble au minimum.
Exactement, ouais. Mmh. Exactement, ouais. Donc en fait, ouais, dans les intérieurs, il y a les polices qui ne changent pas d'un volume à l'autre, enfin, et d'une série à l'autre. Et il y a les polices qui changent un peu plus personnalisées pour certains éléments, en fait.
Est-ce que c'est toi dans ton métier qui fait ou qui a fait le fameux choix du sens de lecture français ou sens de lecture d'origine? Je sais que moi, quand j'ai commencé à lire les mangas, c'était dans le sens de lecture quelquefois français et quelquefois d'origine. Et je me suis toujours demandé qui prenait cette décision.
Ça, c'est plutôt des décisions au niveau éditorial.
Zut, j'aurais raté ma question à Mehdi, j'aurais dû lui poser.
mais moi, je suis aussi partie prenante dans la partie éditoriale de Nobinobi. Hein, donc, je peux aussi te répondre pour la partie Nobinobi. Chez Nobinobi, ça nous est arrivé, effectivement, d'inverser, mais ça c'était pour des raisons bien précises, c'est qu'on s'adressait à un public très jeune pour certains titres, même en dessous de 8 ans, donc plutôt certains mangas qu'on a mis à partir de 6 ans, on a demandé l'autorisation à l'éditeur japonais de pouvoir inverser de mettre en sens français, effectivement.
Sens de lecture, ouais.
Sens de lecture, parce que on considérait que c'était un âge où déjà on commençait à peine à lire dans le sens
normal, français.
Celui qui est normal pour nous. Mm. Et que du coup, c'était peut-être un petit peu trop complexe d'inverser tout de suite. C'est ce qu'on a fait pour des séries, par exemple, comme Les Chaventures de Tai et Mamisu, qui est un joli manga tout en couleur, mais qui est vraiment pour plus petits. Enfin, tout le monde peut le lire, mais c'est vrai qu'on peut le lire dès petit. Mm-hmm. Et pour le coup, ça n'avait pas trop d'intérêt de le garder en sens japonais.
Mais ce serait une question de trouver son public, j'ai l'impression.
Oui, ça peut arriver pour, à l'inverse, pour toucher un public qui ne lit pas de manga.
C'est à ça que je pensais, ouais.
Voilà, des mangas un peu plus adultes, on va dire, ou des mangas qui se rapprochent plus des romans graphiques ou ce genre de choses. C'est vrai que ça peut arriver encore, même si c'est quand même de moins en moins, mais ça peut arriver encore qu'on se dise, tiens, pour toucher tel public, ça peut être bien que...
De changer le sens. Mais tu as répondu, mais du coup, il faut demander aux ayants droit, il faut demander aux auteurs et autrices si on peut le faire ou pas, parce que c'est pas
une évidence. Bien sûr.
On ne fait pas ce qu'on veut une fois qu'on a acquis un titre pour le mettre en France.
Non, bien sûr.
Parce que je sais pas si tu te souviens, mais moi, je me souviens d'une époque où si tu savais jamais quand tu ouvrais un manga, dans quel sens tu allais devoir le lire.
Oui, c'est vrai. C'est un petit peu comme les Kinder Surprise. On avait un peu la...
Ouais, voilà, tu prenais, tu l'ouvrais.
Exactement.
Surprise.
Ça arrive quand même de moins en moins.
Il faut dire. Je pense que on va de plus en plus vers un respect entre guillemets.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Ouais. Ouais, des mangas tels qu'ils ont été faits à la base. Ouais.
Le manga est vraiment devenu. Avant, c'était quand même quelque chose un petit peu extraterrestre pour une niche. Enfin voilà, c'était pas aussi.
Mainstream
et
répandu.
J'ai envie de dire, c'est pas un joli mot, mais accepter que maintenant, parce que maintenant, ça ne choque absolument plus personne quand tu dis que tu lis un manga. Avant, très honnêtement, il y a quelques années encore, on te regardait un peu bizarrement. Alors,
je faisais partie des ados bizarres qui lisaient des mangas. J'ai l'impression que maintenant, les ados bizarres sont ceux qui ne connaissent pas les mangas.
Pour reprendre tes mots, moi aussi, j'étais un ado bizarre. Hein. Et du coup, maintenant, je pense que ça aussi, le fait que ce soit complètement, c'est complètement dans notre vie de tous les jours. Maintenant, ça fait vraiment partie de la pop culture, au même titre que les films, que les séries télé ou les comics. Il y a les mangas aussi maintenant, donc du coup, je pense que ça ne choque absolument plus personne de lire dans le sens original.
Tout le monde sait que le sens original est dans l'autre sens que le nôtre, et puis c'était très accepté.
Il y a moins cette pédagogie qu'effectivement avant, il fallait faire encore un petit peu pour faire accepter, entre guillemets.
C'était un truc de puriste un peu, j'ai l'impression.
Exactement.
Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, on en a parlé ensemble, les longues séries. tu vas les suivre un petit peu tout au long finalement. Je pense à quelque chose comme l'Attaque des Titans ou Seven Deadly Sins, des longues séries que tu vas suivre un petit peu et qui vont finalement subir entre guillemets des choix artistiques pendant des années. Est-ce que les choix que tu fais, enfin que tu fais ou que vous faites dans votre rôle au tout début vont être les mêmes? Est-ce qu'il y a un moment où on va acter des changements? Comment ça se passe quand on a une longue série sur les choix artistiques?
J'ai envie de te dire, pour les longues séries, faut pas se louper.
faut faire les bons choix dès le début, quelque part.
Exactement, et c'est exactement ça. Parce que, très honnêtement, moi, à titre personnel, je suis collectionneur et j'ai horreur quand en cours de route, il y a un truc qui change. Oui. Voilà, un logo qui est décalé, une couleur qui n'est plus la même d'un seul coup, machin. J'ai horreur de ça. Donc, du coup, je ne veux pas ça sur les mangas sur lesquels je travaille, tu vois.
D'accord.
Donc, j'essaye d'éviter. Le petit truc, c'est de penser à une charte graphique qui n'est pas trop invasive, de penser à un logo facilement adaptable, parce que du coup, on ne sait pas à l'avance sur quelle illustration on va tomber, comment on va être la mise en page, etc. À quoi vont ressembler les couvertures futures. Donc du coup, faut essayer de faire quelque chose d'assez assez libre. Le but, c'est d'éviter le plus de contraintes possible, parce que si je dis n'importe quoi, mais si tu te dis que ton logo doit être, tu vas le mettre tout le temps en haut à gauche, et qu'à un moment le volume 7, il y a forcément une tête de personnage en haut à gauche, bon, du coup ton logo tu pourras plus le mettre là. Donc faut essayer d'avoir le moins de contraintes possible, des choses assez fluides, assez libres, pour pouvoir jouer avec et l'adapter en fonction des futures couvertures que tu ne connais pas encore, dont tu ne connais pas encore l'existence, quoi.
Mais c'est pour ça aussi que tu veux t'inspirer du maximum de couvertures possibles, c'est pour te faire une idée de la patte graphique qui va a priori continuer, perdurer au Japon.
Exactement, ouais.
D'accord.
Là, par exemple, on est en train d'étudier sur une série qui en est à son 8e volume et qui est toujours en cours, et on s'est rendu compte qu'à partir du 5e volume, d'un seul coup, le résumé de 4e de couverture n'est plus centré au même endroit, tu vois. Donc du coup, les 5 premiers sont mis sur la gauche, et à partir du volume 8, c'est centré. Donc du coup, nous, sachant qu'à partir du volume 5, ça va être tout le temps centré jusqu'à...
Qu'est-ce que change d'avis ?
Voilà, jusqu'à ce que ça change d'avis, j'espère. Mais du coup, nous, on a décidé dès le volume 1 de faire centrer. Comme ça, nous, tous nos volumes en français sont centrés, tu vois. Donc, c'est le genre de détail où, tu vois, les Japonais, ils se permettent de changer en cours de route, c'est leur droit. Et puis voilà, ils se sont peut-être dit, c'est peut-être mieux comme ça, ceci, cela. Mm-hmm. Mais nous, du coup, comme on a le recul pour, j'essaye dès le départ d'adapter pour que, effectivement.
Pour que ça suive dans le futur.
Pour que ça suive, exactement, ouais. Mm-hmm. Ou un autre détail, tu vois, la série Colocataire à leur manière, qui est sortie chez Nobinobi, à partir du volume 4, il y a 2 pages couleurs au début du bouquin, dans tous les volumes. Mais les volumes 1, 2, 3 n'ont pas de pages couleurs, on ne sait pas pourquoi.
D'accord.
Sauf que nous, maintenant, du coup, au moment où on l'a publié, je sais ça. Donc du coup, moi, dans le volume 1, 2, 3, j'ai voulu mettre une double page couleur. Tu vois, comme ça, en français, tu as des pages couleurs dans tous les volumes. Donc,
unifier du coup, un petit peu plus la collection.
Et
que les collectionneurs comme nous soient contents.
Ah oui, sinon, t'as envie de te demander à partir du volume 4... pourquoi les 3 premiers volumes, il n'y a pas eu de page couleur, tu vois. Donc, d'où aussi l'intérêt, typiquement, là aussi, j'avais demandé tout ce qui était disponible en visuel couleur, même qui n'était pas publié en japonais, mais que dans les magazines, pour pouvoir créer ces pages couleurs qui n'existent pas dans les volumes japonais. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime vraiment étudier tout ce qui peut exister. Mais pour revenir sur ta question des séries longues, la première question, c'est qu'est-ce qui serait une série longue? Parce que quand tu achètes une série qui est toujours en cours, tu ne sais pas encore si elle va être longue ou pas. En fait. Donc, tu vois, quand l'Attaque des Titans, je sais plus quand en France combien il y avait de volumes au Japon, mais admettons il y en avait 7 ou 8. Mm. Bon,
tu peux pas deviner qu'il y en aura 50.
Quand ça commence en France, on sait pas que ça va être plus de 30, quoi. Donc il faut savoir se projeter de ça va peut-être être une série longue, mais c'est pas sûr. Mais si c'est une série longue, faut adapter les éléments graphiques en fonction. Donc c'est pas toujours évident à gérer, mais on y arrive. Mais c'est vrai que là en cours, on a The Fable, on a Hiruma à l'école des démons, Yona princesse de l'aube. Voilà, c'est des séries au long cours qui.
On sait pas où ça va, mais ça y va.
mais ça y va, exactement. Mais typiquement Hiruma, j'ai réfléchi le logo pour qu'il puisse bouger en hauteur ou en hauteur. Il peut aller de haut en bas en fait, en fonction d'accord. de l'illustration. C'est adaptable, quoi. Donc.
Quel est, selon toi, le manga le plus sous-coté qui mérite peut-être un petit peu plus d'amour, peut-être un amour de jeunesse ou au contraire un amour récent qui n'a pas été aimé autant que tu aurais voulu? Est-ce que tu peux nous donner un petit titre comme ça, une recommandation?
Alors c'est un amour récent.
Oui.
ça va être un titre de chez Nobinobi. Parce qu'effectivement, comme je t'ai dit, moi je suis un des 2 créateurs aussi de Nobinobi, en plus d'être le directeur artistique des 2 maisons. Et alors... pour répondre à la question, c'est pas forcément sous-coté parce que voilà, il est pas sorti depuis des années. Mais à mon goût, je le trouve encore un peu trop méconnu.
D'accord, vas-y, tu me fais rêver.
C'est Heterogenia linguistico.
D'accord.
Avec pour sous-titre Études linguistiques des espèces fantastiques. Okay. Et en fait, franchement, c'est un de mes coups de cœur récents. C'est juste un monstre d'originalité, ce manga. Alors qu'il, vraiment, il paye pas de mine. Il a l'air tout mignon et tout. Mais en fait, ça se passe dans un monde fantastique. Mmh. C'est un jeune linguiste qui part à l'étude des différents peuples de créatures qui vivent dans ce monde. Et sa mission, c'est d'étudier leur comportement et leur façon de communiquer, en fait.
D'accord.
Et du coup, par exemple, il va se rendre compte que les loups-garous fonctionnent beaucoup à l'odeur pour se comprendre. Les kraken s'expriment en changeant de couleur. Les hommes lézards, c'est par le dessin qu'ils se font comprendre, etc. Vraiment, c'est le personnage principal qui est tout candide. C'est un jeune étudiant linguiste, un apprenti linguiste. Mais il étudie le langage, les attitudes. Il passe tout peigne fin pour comme si c'était des vraies espèces. Enfin, pour lui, dans son monde, ce sont des vraies espèces. Pour nous, effectivement, il étudie pas des vrais animaux ou des vraies créatures, mais lui, c'est son monde à lui. Et du coup, c'est fait avec plein de bienveillance. C'est un peu un miroir de notre société aussi. Ça montre un petit peu les petits travers qu'on peut avoir de communication aussi de nos jours. Mais tout ça avec beaucoup d'humour, un humour hyper fin et transposé dans ce côté un peu fantastique. Franchement, c'est une petite pépite méconnue que je vous conseille, que je te conseille.
Très bien, tu m'as fait rêver. J'avoue que ça donne envie. Et c'est tout public ?
C'est tout public, ouais.
Ok, c'est nickel. Ouais. Bah écoute, on notera ça, on encourage les auditeurs et les auditrices à aller lire. En tout cas, moi, tu m'as donné envie, je vais sûrement lui laisser sa chance.
Je suis ravi, tu m'en diras des nouvelles.
Ok, du coup, on va revenir un petit peu sur ton métier et sur le milieu, entre guillemets, de la direction artistique, avec quelques petites questions en plus. J'ai envie de te parler couverture. Alors, tu l'as dit, on donne un petit peu trop de place aux couvertures. C'est vrai, mais j'ai une question quand même sur les couvertures.
Ouais.
Entre fans de manga, on parle souvent des couvertures, justement, des mangas, et notamment, on en a parlé tous les deux avant, mais de la différence qu'il peut y avoir entre une couverture japonaise et une couverture française. Il y a les puristes, il y a ceux qui sont plus fans de nouveautés, mais surtout, quels sont les choix? Alors, tu en as évoqué un qui est effectivement les polices d'écriture, par exemple, et les logotitres qui nous imposent des choix, mais est-ce que ça arrive qu'on repimpe complètement une couverture pour l'adapter un petit peu plus au marché français, par exemple?
Tout le temps. Alors, j'exagère, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très très courant. Et tu dis qu'on parle beaucoup des couvertures, mais en même temps, c'est une grosse partie de mon boulot. Donc c'est quand même la couverture, c'est la carte de visite du manga en fait. C'est la première chose que tu vois de lui avant même d'avoir lu l'histoire, d'avoir lu le résumé, de savoir de quoi ça parle. C'est
dans tous les cas.
Dans tous les cas, c'est ta première rencontre avec le manga, avec cette série, la couverture. Donc du coup, c'est hyper important. Donc c'est pour ça que je passe toute mon énergie à faire des belles couvertures. Qu'est-ce qui fait qu'on pimpe les couvertures ou qu'on les garde pour moi, avant tout et sans hésitation, c'est son efficacité.
D'accord.
C'est-à-dire que si je juge que la couverture japonaise est hyper impactante, hyper efficace telle qu'elle est, ça sera juste une adaptation en français. Si je la trouve pas assez forte,
l'équipe,
je pas tout seul, mais on va dire je suis à l'impulsion de ça, en discutant à la fois avec la partie dito, à la fois avec la partie marketing, à la fois avec la partie commerciale, si on considère que c'est pas assez impactant ou ça n'évoque pas assez le contenu, c'est pas forcément assez au goût du public français, etc. Là, on se permet de faire des changements.
Peut-être moderne aussi, parce que ça peut arriver que vous éditiez des vieux titres.
Exactement, aussi. Il y a aussi des cas où ça a un peu mal vieilli, ou c'est un peu daté, et effectivement, il faut les repuncher un petit peu, les mettre un petit peu au goût du jour. J'ai un exemple un peu flagrant que je peux te
ouais, bien sûr, vas-y.
Développer. Celle où on a le plus changé de choses, je pense, une de celles, c'est la série Shine. Donc, qui est une série chez Nobinobi, c'est une série qui se déroule dans le monde de la mode, avec deux personnages principaux qui n'étaient pas prédestinés à réussir dans ce milieu, mais qui vont tout faire pour y arriver. Et du coup, sur les couvertures originales japonaises, elles étaient jolies, mais je les trouvais pas assez impactantes. Pour décrire rapidement, il y avait l'illustration principale, tout autour un cadre blanc avec le titre dedans, et dans le cadre blanc, il y avait sporadiquement des petits éléments noirs qui indiquaient des accessoires de mode. Il y avait un maître, des aiguilles, du maquillage, enfin voilà, mais tout autour de l'illustration couleur principale. Et très honnêtement, moi, quand j'ai vu la série pour la première fois, je savais pas de quoi ça parlait. Et la couverture, je me souviens spécifiquement de m'être demandé de ce que c'était ce manga, en fait. Rien qu'avec la couverture japonaise,
tu trouvais que ça parlait pas, toi, en fait.
Non, j'arrivais pas à savoir ce. Après, en l'analysant, oui, je voyais, j'ai compris qu'il y avait des éléments relatifs à la mode, au maquillage, aux vêtements, etc. Mais j'ai pas trouvé ça hyper, hyper percutant dès le départ. Et là, c'est là que j'ai eu l'idée d'en faire des couvertures de mode, en fait. Des couvertures de magazines de mode. Et d'une, parce que déjà, ça mettait beaucoup plus en avant l'image. Parce que en japonais, donc, il y avait un cadre blanc. Là, on a des images pleines pages qui occupent vraiment toute la couverture. Comme les magazines. On a travaillé un logo qui s'inspire de Elle, de Vogue, voilà, dans le genre de, aussi bien au niveau du placement que de la police. Et on a ajouté tout un tas de petites accroches sur l'illustration, interview, défilé,
découvre portraits, coulisses, des dossiers, oser réaliser ses rêves, etc. C'est génial.
Ben merci. Et du coup, quand on a fait les premiers tests, on s'est dit ah bah oui. Enfin franchement c'était l'évidence. On s'est dit mais ça fonctionne de ouf. C'est ça qu'il faut faire. Et donc du coup franchement on était au taquet. On l'a montré aux éditeurs japonais et ils nous ont dit aux ayants droit japonais. Mais franchement c'est top, on adore votre concept. Vous avez tout à fait compris la veine de la série et du coup banco quoi. Et en plus il y a quelques illustrations, pas beaucoup, mais il y en a quelques volumes où on a changé aussi les illustrations pour mettre des personnages où ils sont un peu plus poseurs, tu vois, vraiment comme s'ils étaient dans un studio pendant un shooting photo, ce genre de choses. Notamment la couverture du volume 2 qui était différente en japonais. Donc franchement voilà, ça c'est un exemple où pour le coup on a vraiment tout changé et on a fait le bon choix, parce que c'est vrai que les couvertures de Shang, on nous en a longtemps parlé sur les réseaux, en salon et tout, enfin on nous a dit elles sont vraiment super belles, ou dans les chroniques du
ça change aussi, je veux dire, même en termes de manga.
Ouais,
c'est aussi, très novateur comme couverture, donc ça doit vraiment sauter aux yeux tout de suite.
C'est ce qu'on s'est dit aussi, c'est que ça cassait un petit peu les codes au moment où on l'a sorti, ça cassait un petit peu les codes des couvertures traditionnelles de manga, ouais. Donc du coup, ça a été vraiment un gros plaisir de travailler sur ces couves, de faire comme si c'était un magazine. Et c'était pas du tout un caprice parce qu'on a envie de faire ça, c'est que vraiment c'était au service de la série. Et moi c'est mon leitmotiv, c'est de mettre en valeur la série, c'est pas de faire des couves qui plaisent à Olivier, directeur artistique de Pika et de Nubu, tu vois. Le but c'est vraiment de mettre les séries en valeur, et je trouvais que avec ce concept, le pari était réussi, quoi. Donc parce que globalement, quand même, en général, les couvertures japonaises sont quand même très très sympas. Mais moi, j'aime bien aussi. Ça, c'est voilà, le public français le sait pas forcément, mais faire des petits bonus chez Nobinobi sur des séries comme Yuzu la petite vétérinaire ou À quoi tu joues à Yumu. Mm-hmm. Il se trouve que sur les quatrièmes de couverture, il y a pas du tout de visuel, en fait. Il y a soit des incrustations de pages intérieures, donc c'est des visuels en bichromie, enfin en une couleur, tu vois. Des extraits de planches, ou soit rien du tout. Et ce que je trouvais hyper dommage, dans la mesure où il existe pas mal de visuels couleurs pour ces séries qui sont pas du tout exploités dans les bouquins, mais qui étaient exploités encore une fois pour des choses promo au Japon ou dans le magazine de prépublication. Du coup, on a demandé les droits de ces images-là et on a incorporé des visuels couleurs en plus en quatrième de couve de ces deux séries, par exemple, tu vois. Donc du coup, c'est le parfait exemple de ce que je te disais au tout début, c'est de faire la balance entre l'adaptation et d'être fidèle. Donc globalement, dans toute la charte, on est fidèle à la couverture japonaise, mais il y a le petit truc qui est adapté pour le public français, où on rajoute des visuels couleurs quand on peut. Parce que Edune, je trouve c'est quand même plus attirant d'avoir des visuels couleurs que des visuels de planche intérieure, parce qu'en plus les visuels de planche intérieure, on les retrouve déjà à l'intérieur, donc du coup ça faisait un peu doublon. C'est plus joli, c'est plus attirant, et puis accessoirement, je trouve que ça fait un petit bonus sympa pour le lectorat français. Donc enfin, voilà, je trouve que ça coche toutes les cases c'est le bon compromis, quoi. Du coup on est fidèle, mais on level up un petit peu, quoi.
Donc, on fait des petits cadeaux aux lecteurs et aux lectrices françaises.
Voilà, exactement.
Récemment, la communication a énormément évolué, que ce soit entre nous, humains, hein, mais aussi entre les marques et les lecteurs et les lectrices, et notamment les réseaux sociaux, qui permettent d'avoir du contact direct, en fait, entre nous, lecteurs et lectrices, mais aussi les éditeurs et les éditrices. Et je ne sais pas si toi, dans ton domaine, tu es un peu confronté, entre guillemets, à ça. Est-ce que, finalement, ça impacte un peu ton métier et son déroulement? Je pense notamment à des débats un peu houleux que j'ai vu passer sur Twitter récemment, par exemple, voilà, à propos de manga, de tranches, etc. Donc, est-ce que ça impacte finalement ton métier et son déroulement? Est-ce que ça a changé quelque chose, cette intrusion, entre guillemets, des réseaux sociaux?
Très honnêtement, pas tant que ça, moi, à mon niveau. Je pense que ça intervient beaucoup plus sur les choix des séries, où on entend beaucoup les séries les plus attendues, etc. Après, sur le traitement graphique des séries, pas trop. Même si, alors moi, je suis quand même beaucoup à l'écoute de ce qui se fait, de ce qui se dit sur les réseaux et de ce qui se fait aussi sur le marché. Mais non, j'ai pas l'impression d'être impacté directement. Après, dans la mesure où moi-même, comme je te disais, je suis collectionneur et je veux que les trucs soient réguliers, que soient beaux, que soient fidèles aux japonais, etc. Quelque part, entre guillemets, je m'auto-censure de trop partir dans des délires ou de changer des trucs d'un volume à l'autre, etc. Donc,
tu es ton propre critique.
Exactement. Je pourrais faire partie de ceux qui donnent leur avis sur les réseaux, tu vois. Donc du coup, partant de là, bon, je suis moi-même mon propre filtre, on va dire.
Ouais.
Donc non, ça, du coup, ça m'impacte pas forcément, mais voilà. Après, je reste vraiment à l'écoute et effectivement, je vois ce qu'il y a pu se dire aussi sur la concurrence ou des choses qui ont pas déplu. Bon, malheureusement, sur les réseaux sociaux, on entend plutôt ce qui a déplu.
Il y a déplu que ce qui a plu, on est d'accord. Donc, on vous encourage, si vous aimez et que vous êtes en train de nous écouter.
Ah oui.
Ça,
oui.
Il faut toujours, et que ce soit pour le domaine des maisons d'édition, n'importe quoi d'ailleurs, hein, mais dites-le quand vous aimez. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire du podcast aussi. Ça reviendra aux oreilles d'Olivier, ne vous en faites pas.
Exactement. Non, mais franchement, pour de vrai, on est toujours hyper content quand les choix qu'on a fait sont validés et par le Japon et par les lecteurs. Enfin, là c'est jackpot, quoi. Parce que chose que je n'ai pas précisé, mais tous les changements, le moindre changement qu'on fait, on parlait de Shine, on parlait ou de Thierry, tout ce qu'on fait, enfin, rien n'est fait sans l'accord des Japonais et des ayants droit, et de l'auteur et de l'éditeur. Tout est validé.
En fait, chaque manga qui sort en France a été vu par les personnes au Japon qui vont dire oui ou non, et je suppose que des fois, ils disent non et vous devez modifier, etc.
Ouais, exactement.
Donc c'est pas dans l'idée que Pika Édition prend un titre, fait ce qu'il veut avec et le met en vente.
Non, c'est pour ça que je tiens à préciser, effectivement, c'est que tout ce qui sort a été validé par l'auteur, par l'éditeur, par l'ayant droit. Voilà, c'est absolument rien se fait sans leur accord. Tout est rigoureusement validé et chaque volume, c'est pas juste on valide le volume 1 et après vous faites ce que vous voulez. Non, c'est tout. Donc du coup, effectivement, si on fait des choix qui ne leur plaisent pas, et qu'on fait fausse route, ça passera pas et on devra proposer autre chose. Fort heureusement, dans une très grande majorité des cas, les ayants droit nous font confiance. C'est quand même, très honnêtement, c'est quand même arrivé très peu souvent que les propositions graphiques soient refusées. Donc ça veut dire qu'on n'était pas trop à côté de la plaque. Ça, c'est plutôt bien. Et même ce qui nous fait plaisir, hyper plaisir, ça revient à ce qu'on disait par rapport au retour sur les réseaux sociaux, c'est quand on a des retours un petit mot de l'éditeur ou de l'auteur qui nous disent « Ah, on a beaucoup aimé votre logo, ah, super la compo ». Enfin, là c'est la cerise sur le gâteau, franchement. je dis pas ça pour faire style, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour. Tu te dis que ton boulot, il a plu. Et il a plu à la personne qui a créé le manga, tu vois. Donc du coup,
c'est vraiment le plus beau compliment, je pense, qu'on puisse recevoir.
Carrément. Et après, si ça plaît aussi, enfin, c'est le but aussi que quand on a des retours positifs des lecteurs, là aussi, c'est génial.
C'est encore une histoire de balance entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire plaisir à tout le monde.
Exactement. Mais voilà, je tenais à préciser qu'effectivement, tout est validé. Et voilà.
En même temps, avec 20 ans de travail dans le manga, je pense que Pika Édition commence à connaître justement son métier.
Je pense aussi. je l'espère en tout cas.
En tant que directeur artistique, où est-ce que tu prends ton inspiration? Est-ce que tu vas voir des ouvrages publiés dans d'autres pays? Est-ce que la veille doit faire partie de ton travail, je suppose? Comment on prend son inspiration justement pour faire ses chartes graphiques et ses couvertures?
Ouais, tout à fait. Tu as prononcé le mot. La veille fait partie de mon boulot. Bah, notamment déjà, effectivement, je regarde ce qui se fait à la concurrence, je regarde ce qui se fait à l'étranger. Je peux te dire qu'à chaque fois que je pars en vacances à l'étranger, je fais des librairies manga pour voir comment sont publiés, pour voir déjà ce qui sort, pour voir comment ça sort. Je regarde les mangas Pika et Nobinobi dans d'autres éditions, chez d'autres éditeurs à l'étranger. C'est toujours hyper instructif. J'adore ça. Je me dis, ah bah tiens, j'aurais pas fait comme ça. Ah bah tiens, ils ont fait mieux que nous. Enfin, bah, c'est hyper.
Est-ce que tu ramènes une valise de mangas de Pika Édition dans d'autres éditions quand tu vas en vacances?
J'aimerais bien. j'en ai ramené quelques-uns, oui, récemment encore. Mais j'ai pas assez de place, malheureusement. Donc ça, je trouve ça hyper instructif. Bon, après, on peut chercher sur le net aussi, mais c'est toujours plus sympa de les voir dans leur véritable environnement en librairie. Non, sinon l'inspiration, ça vient. Bah, c'est un peu cliché, mais ça vient un peu partout. Hein. C'est les livres que je lis, les séries télé, les films que je regarde, les expos, bah, les voyages. On disait tout ce qui peut être de l'ordre du goût personnel aussi. C'est ça qui est cool avec ce travail, c'est qu'il n'y a pas de limite. En fait, tout est bon pour trouver des bonnes idées. En fait, les sources d'inspiration peuvent être hyper variées. En fait,
un peu partout.
Des jeux vidéo, enfin, un peu partout.
Mais je pense que tous les créateurs et créatrices savent très bien de quoi tu parles à ce moment-là.
J'imagine.
Une dernière question avant qu'on se quitte, justement. Est-ce que c'est pas un peu l'éclate de comparer toutes les éditions d'un même titre dans plein de pays différents, de voir toutes les couvertures côte à côte pour voir les différences de traitement?
C'est complètement l'éclat. j'adore ça. C'est vrai que quand on commence une nouvelle série, volontairement, je regarde pas forcément tout ce qui existe, déjà pour pas être inspiré dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire pas terrible ou enfin on commence par des idées neutres, c'est-à-dire sans, un peu vierge de savoir de ce qui a été fait, et je commence à aller voir les autres éditions quand soit pour se rassurer de nos choix à nous, ou soit quand on est un petit peu en panne d'inspiration. Là, pour le coup, effectivement, comme on disait, ça peut toujours être intéressant de voir comment les États-Unis ont géré la chose, ou comment c'est sorti en Italie, ou ce genre de truc, quoi. Donc, mais c'est toujours hyper, hyper, hyper instructif de comparer ce qui a déjà été fait sur un même titre, quoi.
Et du coup, après, dans le processus créatif, pour éviter de se faire influencer, peut-être.
Ouais, c'est ça. Bah, après, ça arrive toujours à un moment donné, parce que ça peut être toujours aussi une bonne inspiration. Hein. C'est pas forcément qu'une mauvaise chose, hein, au contraire. Mais au début, j'aime bien qu'on parte de nos idées à nous.
Ouais.
Qu'on les développe nous, pour mettre notre patte à nous, notre touche artistique à nous. Et après, effectivement, on met ça en corrélation avec ce qui existe déjà, et puis voilà, on affine. Peut-être qu'effectivement, on va récupérer un élément de l'atomisation, elle a été faite de telle sorte ici. Oh, bah, ça, c'est pas mal. Oh, bah, tiens, il y avait une petite virgule rigolote sur le R de tel logo, etc. On peut le récupérer. Voilà. Ça peut être après un mix entre ce qu'on a fait nous, du coup, et ce qui existe par ailleurs.
D'accord. Et ben, écoute, je crois qu'on est arrivé au bout de cet épisode de podcast, de cette longue conversation.
Déjà,
le public le demande, on pourra peut-être faire un épisode bonus, qui sait.
Pour le coup, c'est vraiment un métier passion. Moi, je bosse là-dedans, mais enfin, j'allais dire, c'est pas du boulot. Si, c'est beaucoup de travail, mais c'est avant tout une passion. Donc du coup, je peux t'en parler des heures.
C'est Pika, la passion du manga, de toute façon.
Exactement. C'est pas du tout galvaudé de dire ça, c'est vrai.
Mais c'est ce que j'aime dans les discussions qu'on a ensemble, que ce soit avec toi, avec Mehdi, c'est qu'on sent la passion, entre guillemets, qui ressort de chacun de nous.
Mais tu verras, avec mes successeurs, quand tu vas continuer d'explorer les coulisses du manga, ça va être pareil, c'est que des passionnés.
J'ai hâte de rencontrer tous ces passionnés que je ne connais pas encore. Eh ben écoute, si tu n'as rien d'autre à ajouter, on va pouvoir laisser les auditeurs et les auditrices à leur lecture de manga passionné. Je te remercie de ta présence.
Merci beaucoup
passion.
À toi. C'était un super bon moment. J'espère que les auditeurs auront appris plein de choses.
J'espère aussi, et qu'ils n'hésitent pas, si on a oublié un sujet qui les titille un petit peu trop, à laisser un commentaire, bien sûr, avec des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Et puis, pourquoi pas, sur les réseaux de Pika Édition, comme il vous l'a dit, Olivier Gardin est dessus de toute façon. Et puis, on y répondra avec le prochain épisode avec grand plaisir. Prenez soin de vous surtout, et puis à bientôt dans le Pika Podcast.